Bonjour, bienvenue sur Bien Vivre le Numérique, la chaîne de podcast du groupe TIPCO. À chaque rendez-vous, on parle numérique responsable. On explique comment prendre soin des infrastructures et comment prendre soin des utilisateurs. On aborde des sujets techniques avec nos experts, des expériences avec nos partenaires et une vision du monde numérique de demain. Bref, on s'intéresse à tout ce qui peut rendre le monde numérique durable en prenant soin de l'économie, de l'humain et de la planète. Bien vivre le numérique, c'est parti.
Aujourd'hui, on parle Digital Workplace avec un focus sur le onboarding. Vous entendrez les mots café, pomme, fenêtre, mais surtout environnement de travail numérique et sobriété. Jean-Christophe Vinel et Johan Bardi vont accueillir Olivier Thomas, directeur technique digital chez TIPCO, et Alain Battendier, directeur système d'information chez Odigo. C'est parti.
Bonjour Olivier.
Bonjour JC.
Tu es directeur solutions Digital Workplace chez TIPCO. Tu fais ça depuis combien de temps ?
Eh bien, ça fait maintenant 18 ans que je suis chez TIPCO. Ça fait 18 ans que je gère des choses autour du poste de travail et de l'utilisateur. Et ça fait 4 ans qu'on a lancé cette activité spécifique autour du Digital Workplace.
Alors, quand on parle Digital Workplace, finalement, c'est quoi le périmètre ? De quoi parle-t-on ?
Quand on parle Digital Workplace, on parle de ce qui est autour de l'utilisateur. Donc, autour de l'utilisateur, on va trouver à la fois, évidemment, son poste de travail, smartphone, tablette, lunettes, par exemple. On va trouver aussi les équipements auxquels il peut avoir accès, une salle de réunion, une imprimante, voire un robot. Et on va trouver les applications naturel sur lequel il va travailler tous les jours, donc les suites collaboratives que l'on peut rencontrer. Et ça, ça doit marcher en tout lieu, puisque effectivement, maintenant, on travaille au travail, on travaille à la maison, on travaille un peu partout.
Dans des espaces de coworking.
Exactement. Voilà.
On commence déjà à avoir des questions. Moi, j'ai deux questions. Enfin, c'est une question posée, la même question posée par deux personnes. On a Tim C, qui a priori est producteur de pommes en Californie. Je ne sais pas si tu vois.
Voilà. À peu près, ouais.
Et un certain Bill G, qui a été monteur de fenêtres pendant très longtemps à Seattle. Ils nous demandent tous les deux si ce que l'on dit, c'est valable pour tous les environnements numériques.
Oui, alors ce qu'on dit là, c'est valable vraiment pour tous les environnements numériques. On va rencontrer à la fois sur la partie matériel, on va être entre des solutions qui proviennent effectivement d'Apple, de Google ou de Microsoft. Et sur les suites collaboratives, principalement, on rencontre des choses autour de Google et de Microsoft.
Il y en a un qui sort du lot ?
Ben, on va dire qu'en suite, alors en matériel, pas vraiment, c'est assez équilibré. Mais évidemment, on sait tous qu'on a tous un poste Windows dans les entreprises, donc c'est plutôt Microsoft, mais les choses peuvent s'inverser. Et sur la suite collaborative, c'est aussi assez équilibré, même si en France, c'est plutôt Microsoft qui est leader, on va dire.
On va rentrer maintenant plus spécifiquement dans l'onboarding. Oui. Figure-toi que ce matin, à 8h30, Mathieu s'est présenté à l'accueil de TIPCO. C'est son premier jour, donc on lui a bien naturellement offert un café. Mais maintenant, c'est pas tout. Une intégration, un accueil comme ça, c'est quoi les enjeux pour une DSI ?
Alors, pour une DSI, il y a des enjeux, mais pas que. Et on va regarder les enjeux pour Mathieu, les enjeux pour son chef et les enjeux, donc, celui qu'il a choisi. Et puis, pour la DSI, effectivement. Pour Mathieu, il faut qu'il se sente accueilli. Donc, il faut qu'il arrive, qu'il ouvre son poste de travail et puis qu'il ait l'impression, ça y est, il y est déjà, quoi. Donc, il s'authentifie, il fonctionne, il accède aux applis. Donc, ça, c'est son enjeu à lui, il doit se sentir accueilli. Pour son chef, il faut que ce soit simple, il ne faut pas qu'il se pose de questions, il faut qu'il dise, voilà, il y a Mathieu qui arrive à telle date, et il sait que quand Mathieu arrive, il va avoir son matériel et ça va marcher. Et pour la DSI, son enjeu, c'est de dire que tous les gens qui arrivent dans l'entreprise, on doit pouvoir les accueillir tous de la même manière, en fonction de leur rôle dans l'entreprise, des applications auxquelles ils ont accès, ou des données auxquelles ils doivent avoir accès. C'est ça les enjeux de chacun, on va dire.
Alors, on a pris une promesse aujourd'hui qui était d'enchanter l'onboarding. Donc, on n'est pas à Poudlard, mais je t'ai quand même pris une baguette. Si on veut que ce soit au top, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?
On n'a pas besoin d'une baguette, mais on a besoin de mettre un petit peu d'énergie pour réfléchir à qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit au top. Il faut se mettre à la place de Mathieu, en fait. Si on veut que ce soit au top, c'est à Mathieu qu'on doit penser. Après, tout le reste va décliner. Mais si on pense à Mathieu, on va pas se tromper dans notre démarche. Mathieu, il faut se mettre à sa place. On se dit, viens d'arriver, il ne connaît pas l'entreprise. Et il faut qu'il se sente vraiment accueilli. Il faut que...
Attendu,
accueilli. On pourrait dire que même notre attendu vis-à-vis de Mathieu, c'est presque qu'il a envie de poster sur Instagram ou sur LinkedIn une photo de son kit d'accueil et qu'il dit, oh la vache, j'étais vachement bien accueilli dans cette entreprise. On va dire que si on fait ça, on va avoir la démarche maximum, et c'est ça qu'on vient aller chercher.
Quand tu parles de kit d'accueil, c'est-à-dire qu'on imagine vraiment de recevoir un package complet, une boîte qu'on ouvre spécifiquement.
C'est exactement ça. C'est recevoir, pourquoi pas, une boîte qu'on ouvre à l'intérieur, un petit bonbon, il y a ton PC, ton smartphone, ton casque, et tu l'ouvres et tu te dis, bah, tiens, mais c'est neuf, ou enfin c'est neuf reconditionné, tu sais pas, mais en tout cas, ça sent le neuf, tu l'ouvres, tu t'authentifies, tu avais reçu l'information de ton nom d'utilisateur et ton mot de passe, tu t'authentifies, ça marche. Tu fais pareil avec ton smartphone, ça marche. Et tu dis, mais ça marche, j'ai accès aux applications, j'ai déjà des groupes, j'ai déjà des choses qui sont dans mon agenda.
J'ai pas toutes tes inscriptions, tout le parcours à faire.
J'ai un parcours, je me sens...
Ça, c'est la partie plutôt pour Mathieu.
Ça, c'est la partie pour Mathieu, mais c'est celle qui conditionne tout le reste, en fait, finalement. Parce que pour le chef de Mathieu, alors, il n'y a pas les mêmes enjeux, mais par contre, pour son chef, c'est de se dire, moi, en fait, je remplis un formulaire, je dis Mathieu, il s'appelle Mathieu, il arrive à telle date, il arrive à tel endroit, il a tel profil, donc il va avoir accès à telle appli, à telle donnée, j'ai même pas besoin de dire à quoi, parce que je dis juste qu'il a tel profil, et tout le reste doit découler pour moi, et je dois même pas me poser de questions, j'ai des infos qui me disent, le matériel est arrivé, le matériel est préparé ou pas, et Mathieu est arrivé, son matériel a été posé, et je sais juste maintenant que Mathieu, il va vivre une belle expérience, et moi ça me suffit, parce que je sais qu'il va pouvoir travailler directement, et que son planning d'accueil est déjà prêt aussi. Donc ça, pour moi, c'est ça que j'attends, on va dire. Et c'est ça
qui enlève tous les irritants de l'accueil qui ne fonctionnent pas, des inscriptions sur les comptes qu'il faut faire le jour où on arrive, etc. etc.
Ouais. Et pour la DSI, son enjeu à elle, c'est que tout ça, ce soit industriel, automatisé, de se dire, moi, je sais quand quelqu'un il arrive, il n'y a pas de risque de fuite de données. Je sais que tout ça, ça va être complètement industrialisé, et je sais que tous mes utilisateurs vont rentrer de la même manière, donc je vais pas avoir de surprise, je vais pas avoir d'écart de matériel, je vais pas avoir un chef qui m'appelle à la dernière minute en disant ah ouais j'avais oublié et tout, mais il y a machin qui arrive, il faut vite lui préparer quelque chose. Non, moi c'est un process, c'est industriel, et tout fonctionne de manière le plus naturelle possible. 95% des cas, évidemment, sur les...
On a déjà des éléments de performance, finalement presque des éléments un peu économiques dans ce que tu nous dis. On a des éléments à forte valeur humaine, oui. dans le cas de Mathieu. On aura, et on y reviendra sur ces éléments tout à l'heure et un petit peu plus tard dans l'émission, en y ajoutant aussi des éléments sur les impacts environnementaux. Ce sera la dernière partie de notre émission sur l'éco-responsabilité de la Digital Workplace. En tout cas, merci beaucoup Olivier pour tous ces éclaircissements. Il est l'heure de passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est l'interview de notre témoin. Johan va nous rejoindre. On va être en duplex avec Alain Battendier, qui est DSI chez Odigo et qui va nous raconter son aventure. Bonjour Johan, comment ça va ?
Bonjour JC, très bien.
Alors on est avec Alain, merci Alain d'avoir accepté de nous raconter votre expérience onboarding, et puis Johan, je te laisse conduire l'interview, à toi.
Merci, bonjour Alain, merci beaucoup de vous rendre disponible. Alain, vous êtes directeur des systèmes d'information d'Odigo. Odigo, filiale, ex-filiale de Capgemini jusqu'en 2020. Vous êtes un des leaders mondiaux dans les contact centers as a service, à savoir des solutions en mode cloud pour les centres d'appel, infrastructures, télécom. Bref, vous équipez de la tête aux pieds les téléconseillers dans le chat, en mail. Vous êtes présent dans le secteur public et dans le secteur privé, à peu près 1000 collaborateurs, à savoir 600 personnes en France, en Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas. Bref, une capillarité européenne principalement. Je vous propose, Alain, de commencer par faire connaissance avec votre direction informatique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Oui, la DSI, merci à vous déjà de m'accueillir. La DSI, c'est en charge de l'informatique interne, qui comprend la partie Modern Workplace, la partie application legacy. En termes de parc informatique, cela représente un peu plus de 900 laptops, majoritairement des PC, ainsi que quelques Mac, et avec un parc qui a été entièrement déployé milieu 2021. Suite à la sortie d'Odigo du groupe Capgemini.
Et combien de personnes composent la DSI ? Vous êtes tous présents en France ?
La DSI, on est tous présents en France avec des activités de développement externalisées au Maroc. Et ça comprend une vingtaine de personnes.
D'accord. On revient sur la scission avec Capgemini. Je crois que c'était un temps fort au niveau de la DSI. Quels étaient les principaux défis pour vous au niveau de la DSI ?
Alors, un projet de scission et de sortie est un défi sur plusieurs aspects, sur l'aspect complexité, nombre de projets à mener en parallèle et délai contraint.
Combien de projets vous gériez en parallèle, Alain ?
Alors, côté IT, on avait 4 grands streams. Mais au niveau de l'entreprise, il y avait également des streams côté contractuel, côté finance, côté RH. Si je ressens, tu as partie IT, quatre grands streams, un stream orienté CRM marketing, un stream RH avec le déploiement d'un nouveau cœur RH d'une part et le déploiement d'un nouveau prestataire de paye qui s'effectuait lui en tout début 2022. Un stream ERP finance ou avec un déploiement d'un nouvel ERP qui s'est effectué tout début janvier 2022 également, et un stream Modern Workplace qui incluait notamment la refonte de toute la partie réseau bureautique pour l'ensemble de nos sites, un environnement propre Office 365, ainsi que le déploiement d'un nouveau parc de laptops.
Alors on va y revenir justement sur le côté Modern Workplace. Les impacts de cette scission au niveau de l'onboarding IT, d'ailleurs peut-être aussi dans le cadre de cet événement, il y a peut-être eu de l'offboarding. Quels étaient les impacts pour vous ?
Alors, le premier impact pour les collaborateurs, c'est un impact plutôt positif, puisqu'auparavant l'onboarding était scindé en deux parties. Une partie gérée par le groupe, pour les activités SI gérées par Capgemini, et une partie gérée par Odigo côté SI de production. Donc tout l'onboarding et l'offboarding est aujourd'hui géré avec un point d'entrée unique. En termes d'impact, l'impact principal a été la revue de la gestion du Modern Workplace, qui était entièrement gérée côté Capgemini, avec une gestion qui a été externalisée chez TIBCO, qui gère l'administration de cet environnement, le stockage centralisé des équipements, les entrées-sorties de nos laptops et les envois sur les sites distants et à l'étranger. Le principal impact par rapport aux collaborateurs concerne les collaborateurs anglais, allemands, belges et néerlandais qui profitaient précédemment d'un support local Capgemini et qui ont basculé avec un support IT 100% distanciel.
Et alors, comment ont-ils réagi ? Est-ce que ça a radicalement changé l'approche, cette proximité perdue, entre guillemets, ou cette distancielle ?
Ça présente des difficultés au sens de la fourniture des laptops, du support, et qui est forcément différent lorsqu'on est sur un support distanciel, lorsqu'on a des problèmes avec son laptop, par exemple. Néanmoins ce support se passe plutôt bien, même bien, tout court, ce qui n'était pas gagné d'avance par rapport à cette bascule.
Et sur l'onboarding plus précisément, parce que là on parle sur la partie support, et sur l'onboarding, est-ce que vous avez d'ailleurs fait de l'onboarding au niveau, je pense, UK ou en Espagne, qui a été transformé du fait de le gérer à distance ?
Alors l'Espagne, on profite d'un support sur site. Donc le support sur site a été déployé sur les sites France et Espagne. Donc l'onboarding proprement dit, le process a été revu, la façon de gérer notre stock de laptop a été revue. Derrière, on a toujours quelques difficultés, mais pas liées au Modern Workplace, mais plus liées à nos applications métiers.
Mmh. Quand vous dites revue, pardon Alain, ça veut dire quoi ? Quand vous dites ça a été revu concrètement, c'est quoi ?
La façon d'effectuer les demandes, les délais de fourniture, la gestion des stocks, la capacité à fournir les équipements, la nature des équipements fournis, tous ces éléments-là, les créations des comptes, tous ces éléments-là ont été revus pour être gérés de façon plus centralisée. Auparavant, la partie laptop, notamment, Modern Workplace, était gérée par chaque entité du groupe Capgemini de chaque pays.
D'accord.
Donc, ce qui a nécessité de changer en profondeur un peu notre gestion de ce parc.
Donc, ça faisait partie des principaux enjeux, cette centralisation. Quels étaient les enjeux pour vous ?
Alors, il y avait un enjeu de centralisation, ça c'était le premier point. Un enjeu de bonne gestion, un enjeu, une crainte sur la bonne gestion des collaborateurs à l'étranger. Donc, c'était un des enjeux et un des risques de l'opération par rapport aux collaborateurs. Et le troisième enjeu, c'était la capacité à apporter du support, à remplacer des laptops, également de façon à distance, sans support sur site, ce qui était la pratique au sein de Capgemini.
Donc une transformation des habitudes.
C'est ça, une autre façon de gérer le support.
Et dites-moi, je ne vous entends pas sur l'enjeu de la sécurité. Est-ce que c'est intrinsèque à l'onboarding ou cela fait-il partie d'enjeux prioritaires pour vous?
Alors, la sécurité, elle est vraiment transverse chez nous, avec une équipe sécurité qui gère les éléments aussi bien au niveau du produit qu'au niveau de la DSI. Et la partie de sécurité, c'est un élément clé par rapport au contrôle des accès, à l'authentification. Donc c'est un élément clé qui irrigue l'ensemble de nos applications et de nos process.
Ce que vous dites, c'est que ce n'est pas spécifiquement l'onboarding, c'est ça qu'on doit comprendre.
Ce n'est pas spécifiquement l'onboarding. L'onboarding, la partie sécurité, nécessite de gérer les droits d'accès, notamment. C'est ces éléments-là qui sont clés. Côté Modern Workplace, et plus particulièrement laptop, la sécurité passe par l'encryption des disques, l'accès sécurisé des laptops, la capacité de les effacer à distance si besoin. Voilà. Mais ces éléments-là sont vraiment un peu transverses.
D'accord. Donc pour la partie onboarding, donc on voit que on a compris les enjeux de centralisation, de droit, d'habilitation. Quelles sont les réussites que vous observez par rapport à ce onboarding?
Alors, le premier, c'est la maîtrise des délais. On est capable, et TIPCO est capable de nous fournir les laptops dans les délais impartis. La capacité de répondre également à des demandes urgentes. Donc ça, c'est une des réussites observées. La deuxième, c'est la facilité et la meilleure maîtrise de notre parc, la facilité de déploiement, notamment dans l'environnement Microsoft, qui est un environnement assez puissant pour gérer ce parc informatique et la gestion de l'ensemble.
Et dites-moi, pour revenir sur la thématique de notre web émission, est-ce qu'on enchante l'onboarding des nouveaux collaborateurs au sein d'Odigo? Est-ce qu'ils ont des paillettes? Allez, on vous laisse la baguette, puisqu'il y a la baguette magique de Jean-Christophe. Est-ce que vous remettez cette fameuse baguette magique à vos collaborateurs, collègues?
Alors, l'enchantement, il est, il faut bien le dire, plus lié à nos locaux, à l'accompagnement côté RH, aux communications, que pure IT, où souvent l'IT est plus vue comme une source d'insatisfaction que de satisfaction. Mais néanmoins, côté IT, l'onboarding réussi, il passe par plusieurs ingrédients. La partie Modern Workplace, la capacité de fournir le laptop, l'environnement bureautique, la partie téléphonie en temps et en heure. Ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien chez nous. La deuxième partie, c'est la gestion des droits, la gestion des accès, que le collaborateur puisse avoir l'ensemble de ces éléments dès le premier jour. Là, on est encore perfectible avec un gros projet en cours de centralisation des authentifications, des habilitations qui nous permettent d'automatiser la gestion de ces droits et faire en sorte qu'on supprime les demandes récurrentes d'ajout de droits les premiers jours d'arrivée d'un collaborateur, qui est toujours frustrant pour lui de ne pas pouvoir accéder à tout le nécessaire. Et le troisième point, mais qui dépasse l'IT, c'est la gestion documentaire, l'environnement documentaire, le fait qu'un nouvel arrivant puisse trouver les bons documents au bon endroit et de façon facile. Et là, on a travaillé sur un intranet fait par l'équipe communication, qui est plutôt bien fait, qui permet de retrouver les documents clés. Néanmoins, ça reste un élément d'insatisfaction actuellement, avec un foisonnement des supports documentaires, la multiplication des équipes Teams, des SharePoint, des Filers. Donc le Modern Workplace, et notamment la partie Teams, qui est une façon très, très souple de gérer des équipes, de gérer des espaces documentaires par équipe, a en contrepartie un inconvénient pour un nouvel arrivant d'être noyé dans le nombre d'équipes.
Alors, je peux témoigner, effectivement, il y a quand même un super effet waouh quand on arrive chez Odigo dans les bâtiments de Boulogne-Billancourt, je reconnais. Modern Workplace, est-ce qu'on parle de base documentaire? C'est encore moderne, ça?
Le collaboratif est moderne. La gestion collaborative, le fait de pouvoir partager de façon facile un ensemble de documents, de communications, d'archiver des communications au sein d'une équipe, c'est moderne. Ça permet de travailler en mode agile, de travailler en mode transverse, et ces outils le supportent. L'inconvénient de l'agilité, c'est à un moment donné, c'est l'absence de cadre ou de structure qui fait que les gens qui se sentent bien sont là parce qu'ils connaissent l'environnement, ils maîtrisent cet environnement, ce que ne maîtrise pas un nouvel arrivant, qui peut être désarçonné sur la multiplicité des équipes, des projets, etc.
Donc on a compris qu'une des principales difficultés que l'on peut rencontrer, c'est la notion de base de connaissances. Est-ce que vous avez d'autres cailloux dans la chaussure au niveau de l'onboarding regardé par la DSI?
Non, les deux points principaux, c'est vraiment la partie droit, gestion des droits, qui va être traitée prochainement, et la partie gestion documentaire et structuration. Sachant que la partie gestion documentaire, c'est quelque chose qui dépasse l'IT. Ça concerne l'ensemble des directions métiers, leur façon de s'organiser. Donc, c'est que l'IT n'est là que pour apporter des supports à cette gestion documentaire.
Ok. Alors, comme vous le savez, Alain, nous sommes particulièrement engagés dans la sobriété numérique au sein de TIBCO. C'est un de nos positionnements forts. Comment avez-vous engagé cette démarche de sobriété dans l'onboarding? Comment elle s'inscrit, cette démarche de sobriété numérique dans l'onboarding chez vous?
Alors, la sobriété, elle porte plutôt sur la réflexion sur le renouvellement des matériels.
Ouais. Donc, allongement de la vie du matériel?
Allongement de la durée de vie, la réflexion sur la fin de vie des laptops. On a un parc relativement homogène, qui est plutôt récent. Et donc, va se poser la question, mais dans un an ou deux, du changement de ce parc et de l'usure ou de l'obsolescence de ce parc et de la façon dont on le change. Habituellement, en fin de période d'amortissement, on fait un grand nettoyage et on met à la poubelle un ensemble de laptops qui sont encore bons à l'usage. Donc, c'est une réflexion autour de cette gestion de l'obsolescence et d'avoir une stratégie un peu différenciée suivant les usages et les capacités d'upgrade de nos matériels. Ça, c'est le premier point. Côté Odigo, on a mis en place également sur la partie téléphonie mobile des abondements en cas d'achat de matériel d'occasion. Donc c'est aussi une piste qui a été mise en place sur la partie téléphonie, pas sur la partie laptop, de privilégier l'achat de seconde main. Et enfin, c'est l'optimisation, le dernier point, c'est l'optimisation de nos équipements type imprimante, la suppression de la téléphonie pour être 100% TOIP casque. Mmh. Qui permettent de limiter les équipements déployés sur nos sites.
Allez, on conclut ensemble par une dernière question, Alain. Pour vos collègues qui nous écoutent, quel serait le conseil que vous pourriez donner pour un onboarding enchanté? C'est pour ça rime, c'est pour ça que...
Pour moi, l'onboarding enchanté, c'est un onboarding où il n'y a pas de problème IT. Puisque ce que je disais, c'est que l'IT est souvent plutôt vu comme un élément déceptif, qui ne provoque pas forcément l'effet du « waouh ». Donc, la partie vraiment IT onboarding, c'est d'être là le premier jour, de fournir les bons éléments dès le premier jour et que l'onboarding se fasse dès le premier jour. C'est le challenge.
D'accord. Donc, time to market, on va dire, pour reprendre des termes un peu plus marketing. Time to market. Merci beaucoup, Alain.
Merci à vous.
Bien, merci beaucoup Alain, merci à tous les deux, merci Johan pour cette interview. Olivier, Alain nous a raconté son expérience. Quelle a été l'apport de TIBCO sur cette expérience Odigo?
Alors l'apport de TIBCO, ça a été d'abord un échange, une démarche philosophique avec Alain. Ce qui était vraiment important pour nous, pour Alain et pour moi, c'est de comment on crée un nouveau système d'information, c'est de se dire comment on le fait le plus simple possible. Donc on a déjà pensé à cette dimension utilisateur. Donc on voit qu'il y a encore des étapes à franchir pour aller au bout. C'est ce qu'il nous a présenté. Par contre, les étapes de base, elles sont là. Le poste de travail, il arrive, il est prêt, il est facile à onboarder du point de vue de la DSI. Et l'expérience utilisateur, elle n'est pas contraignante. On n'est pas encore à l'enchantement, mais on est déjà au fait qu'elle soit, que ce ne soit pas un frein, on va dire, dans l'arrivée du collaborateur.
Et Olivier, cette expérience Odigo, toi qui côtoies d'autres entreprises, est-ce que c'est une expérience qui est singulière ou est-ce qu'on retrouve ça chez un certain nombre de tes clients?
Parce que là, en fait, on onboarde toute l'entreprise d'un coup. Enfin,
Alors là, on a onboardé toute l'entreprise d'un coup. C'est un projet en tant que tel, mais c'est un projet dont l'enjeu, c'est ce qui va se passer après. C'est maintenant, quand des gens arrivent, que c'est important donc, de bien gérer le projet. C'est presque facile, on va dire, à gérer. Mais ce qui est... donc, pour revenir à ta question, Johan, est-ce qu'on a ça partout? Alors déjà, c'était le premiers dans lequel on arrivait à poser un système d'information full cloud, on va dire comme ça, donc qui nous permettait finalement de faire cette façon de gérer les utilisateurs et les postes de travail et leurs équipements. Et du coup, pour nous, ça nous a permis de dire, mais si on peut le faire là, on peut le faire partout. Et donc, on est en train de le décliner chez plein d'autres clients. Puis ça devait exister ailleurs aussi.
Et justement, est-ce qu'il y a un accompagnement des utilisateurs qui est nécessaire au-delà de la partie technique ? Parce que là, je vois que maintenant, c'est possible en full cloud, comme tu dis. Donc, c'est-à-dire que la technique et la technologie est
mature.
Mature. Donc, les utilisateurs sont matures, eux ?
Ah ben, les utilisateurs, ils étaient déjà matures avant pour ne pas être embêtés, eux. Hein. Donc, il n'y avait pas de problème. C'était plutôt côté DSI, parce qu'il faut le construire, il faut le penser, il faut se dire, bah, tiens, c'est tel groupe, c'est tel utilisateur, regarde, on a encore des problèmes sur les données, les applications, les droits. Donc, tout n'est pas géré, il y a encore des choses à faire. Mais c'est ça l'enjeu, justement. Donc, c'est bien côté DSI que quand on a pris cette décision, cette philosophie, cette démarche, c'est côté DSI qu'il faut bosser pour que ça marche. Les utilisateurs, ils sont prêts, hein. Ils acceptent. Hein.
Ils acceptent, ils sont prêts. Alors, j'avais une autre question autour de l'optimisation. Parce que, est-ce que l'onboarding est un levier aussi pour optimiser ton parc de licences ? On sait que c'est un vrai enjeu hein, économique pour les entreprises.
En tout cas, ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on va faire avec Alain dans les jours qui viennent, c'est que justement, on vient se réinterroger sur est-ce que c'est les bonnes licences. Et du coup, on va pouvoir regarder les usages, les licences, qui est vraiment utilisé. Et on va essayer on va recombiner tout ça pour dire, en tout cas, on peut le regarder. Donc oui, c'est un enjeu pour optimiser les licences de toute façon.
Donc l'onboarding prend aussi en compte cet aspect économique
il faut répondre au fait que les gens puissent bosser. Donc ça, c'est l'enjeu principal, et qu'il ait la bonne licence par rapport à ce qu'il fait. Et c'est ça qui doit nous permettre d'affiner la bonne licence pour le bon utilisateur, puis qu'il n'y ait pas de licence qui traîne surtout. Quoi. Enfin, ça, on en trouve chez nos clients, des licences qui traînent, qui ne servent plus.
Messieurs, je vois le temps qui avance. On va, je pense, passer sur le troisième point de notre émission. On a évoqué, et encore là à l'instant, le volet économique de l'onboarding. On a parlé de performance, mais l'éco-responsabilité, c'est trois piliers. On a bien sûr l'économie, mais on a l'aspect humain et la démarche environnementale. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on traite ces questions dans la Digital Workplace ?
Alors, on a compris là déjà dans la démarche qu'effectivement ça avait un impact humain et plutôt positif, en tout cas pas négatif, ça dépend du level dans lequel on est, hein. mais c'est déjà extrêmement important dans notre démarche. Le point qui va être aussi important, c'est que maintenant, et de plus en plus, c'est grâce au Covid, mais non, grâce au confinement, ça nous a imposé d'apprendre à télétravailler. Et l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de dire comment on conserve ça, parce que finalement, c'est possible, les outils sont prêts, nous, on est prêts, nos clients sont prêts.
Il y a un risque de retour en arrière ? Est-ce que tu penses qu'on pourrait...
Il y a toujours un risque de retour en arrière dans ce genre de démarche.
Qu'est-ce qui générerait ce retour en arrière si la techno et les utilisateurs seraient...
Simplement nos habitudes, de revenir sur nos vieilles habitudes, de dire finalement, je préfère voir les gens, comme ça je sais comment ils travaillent. Donc c'est de ne pas avoir fait toute la transformation. La transformation, on l'a faite du point de vue de la technique, on l'a faite du point de vue des utilisateurs, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas fait encore et qu'on peut revenir en arrière.
Les grands prescripteurs ou les grands pourvoyeurs de solutions type Microsoft sont, eux, engagés dans des démarches éco-responsables ?
Ah bah oui, ils ont presque plus de pouvoir que des États.
En fait, ouais.
Et donc, du coup, ils ont un engagement fort. Et que ce soit Microsoft, Google, d'ailleurs, on l'entend de tous ces grands acteurs du cloud, ils ont tous un engagement fort sur leur impact CO2, en tout cas, vis-à-vis de la planète.
Concrètement, Olivier, c'est quoi alors, au-delà des engagements, c'est quoi leur réalisation concrète ? Parce que ça représente 5% de la pollution carbone, hein, je crois, l'informatique.
Ça représente aujourd'hui 5% de la pollution carbone. En 2050, ils auront remboursé leur coût carbone depuis qu'ils ont créé. En tout cas, c'est l'engagement qu'a pris Microsoft. Et c'est un engagement... il suffit d'aller sur le site de Microsoft. D'ailleurs, ils ont une page spécifique, il y a la même chez Google, dans laquelle ils expliquent quelles sont leurs actions quotidiennes et comment ils mesurent la performance de leurs actions pour dire est-ce qu'ils y arrivent ou est-ce qu'ils n'y arrivent pas. Et moi, j'ai trouvé le dernier rapport de Microsoft assez intéressant parce qu'il a dit on y est presque arrivé, mais par exemple, avec les consoles Xbox, on a raté notre coup, on en a trop vendu et donc on a trop généré de carbone. Et celui-là, il faut qu'on le gère autrement parce qu'on n'a pas fait notre job de ce point de vue-là. Donc, il y a le rapport et qui dit ce truc-là, il faut qu'on le bosse. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont fait aussi ailleurs, pareil.
Et que peux-tu nous conseiller, nous qui sommes utilisateurs de toutes les solutions collaboratives et d'Office 365, comme bonne pratique qui permettrait d'être soigneux et de prendre soin de la planète?
Alors, il y en a qui sont très, très simples. On arrête de s'envoyer des pièces jointes dans les mails parce que ça, c'est l'enfer. On vient aller créer de la volumétrie de données un petit peu partout. En plus, c'est jamais la bonne donnée. Donc, c'est à la fois important pour la planète et en même temps, c'est important pour notre bien-être. Donc, franchement, il faut y aller, quoi. Donc, on s'envoie plus de pièces jointes, on stocke les choses, on s'envoie les liens. Ça, c'est déjà... S'il n'y avait qu'un seul truc à retenir, c'est ça.
Créer du lien.
Créer du lien.
J'aime
créer
bien.
Du lien. Parce que les autres enjeux dont parlait Alain, le fait de faire durer les postes de travail, ça, ce n'est pas nous, utilisateurs, c'est bien une démarche de DSI.
D'entreprise et de DSI.
Mais ça a plus d'impact quand même de faire durer les postes de travail.
Messieurs, on pourrait discuter des heures de ce sujet et aller tirer les fils de l'éco-responsabilité sur ces éléments-là. La fin de l'émission se rapproche, d'autant qu'on me dit que Mathieu est toujours à l'accueil, donc il serait bien qu'on aille enfin le chercher. Je vous pose la question de façon un peu plus globale sur ce qu'on a entendu. Quel est le point clé que vous retiendriez, Johan? Vas-y peut-être si tu...
Le point clé, si on veut faire un bel onboarding, c'est qu'il faut le penser pour l'utilisateur, celui qui arrive. D'accord ? Si on fait pour l'utilisateur, on va faire un bel onboarding et on vient décliner tout ce qu'il y a derrière pour que ce soit possible.
Johan ?
Je trouve que c'est intéressant d'avoir compris la diversité des enjeux, que ce soit pour l'utilisateur, l'onboardé, le manager et la DSI. Donc, c'est une vision presque polymorphe de ces enjeux. Donc ça, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce triptyque en tête.
Alors, comme vous ne posez pas la question, je vais répondre quand même. Moi, mon point clé, en fait, c'est qu'on a effectivement un gros travail qui est fait, qui est mené sur l'allongement de vie des postes. On a un gros travail qui est fait par Microsoft, par exemple Google, mais qu'on est encore un peu juste dans la sobriété des usages individuels. Et je pense qu'on a tous un gros, gros, gros truc à faire. Messieurs, je crois que tout est dit. Il est temps de se séparer. Je vous dis au revoir. Et puis, le mot de la fin, c'est comme d'habitude. Et voilà.
Et voilà.
Et voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur tipco.fr et sur les réseaux sociaux. Et je vous rappelle que tous nos podcasts sont sur vos plateformes habituelles. Merci beaucoup, à très vite. Et en attendant, prenez soin de vous.